Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. On se remet au Seigneur pour ces moments. On lui demande sa grâce et sa bénédiction pour que sa parole nous rafraîchisse et nous fasse du bien par le travail de son esprit pour ces moments que nous allons passer ensemble maintenant. Et nous allons examiner ce soir le sujet intitulé « Le bien de ceux qui aiment Dieu ». C'est quoi au juste ça, le bien de ceux qui aiment Dieu? On va commencer par lire le verset qui est dans Romains chapitre 8, verset 28. On lit ceci. « Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. » Le bien de ceux qui aiment Dieu. Avant d'arriver sur le mot exactement « le bien de ceux qui aiment Dieu », qu'est-ce que ça veut dire? On va regarder à quelques mots avant. Puis, quelques détails importants concernant notre vie chrétienne. Premièrement, on remarque cette expression « toutes choses travaillent ensemble ». Toutes choses. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit « toutes choses travaillent ensemble » Est-ce que ça veut dire absolument tout? Quand toutes choses, c'est tout? Évidemment, on sait très bien que ça veut dire tout. Mais quand on pense à toutes choses, on nomme parfois des choses telles que le mauvais temps. Il fait pas beau aujourd'hui, puis ça contrecarre nos projets. Justement, des projets contrecarrés ou qui vont pas vraiment comme on aurait aimé qu'ils aillent. Ça peut être un accident. Ça peut être des moments de difficulté, d'épreuves qui nous arrivent. Ça peut être la persécution aussi. Ça peut être la maladie, le deuil. Mais avez-vous remarqué que les choses que nous venons de mentionner sont toutes des choses négatives à la base. Ainsi, quand on parle de toutes choses, est-ce que le verset dit « toutes choses tristes, toutes choses négatives, toutes choses déplaisantes qui arrivent dans votre vie, travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu? » C'est ça qui dit le verset? Non, c'est pas vraiment ça qui dit le verset. Hein? « Toutes choses », ça veut dire « toutes choses », mais ça veut pas dire seulement les choses qui sont négatives ou qui vont mal. Mais ça inclut absolument toutes choses, comme par exemple, ça inclut les choses qui sont neutres, les choses qui sont habituelles, du quotidien, les choses fortuites, les choses normales de tous les jours qui arrivent aussi. Ça inclut ces choses-là aussi, toutes choses. Ça inclut et bien évidemment aussi les choses positives, les choses agréables qui nous arrivent, des bonnes choses qui se produisent. Eh bien, ça inclut aussi les choses qui se produisent autour de nous, tout comme les choses qui se produisent loin de nous. Toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Même le beau temps. Mais on peut être perplexe en pensant ça. Peut-être qu'habituellement, on ne réfléchit pas vraiment à cet aspect-là des choses. Puis quand on pense à toutes choses qui travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, on pense plutôt aux choses négatives qui nous arrivent. Hein. On doit avouer qu'on a ce réflexe-là souvent. Puis qu'on passe très rarement notre temps à penser que les choses ordinaires de la vie et que les choses heureuses de la vie font partie de toutes ces choses aussi. Eh bien, pourtant, c'est ce que la parole de Dieu ici nous dit, que toutes choses travaillent ensemble. Et c'est la deuxième expression qu'on trouve. Travaillent ensemble. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, travailler ensemble? Ça veut dire que ces événements qui se produisent ne sont pas des événements individuels, indépendants quant à leurs résultats. Oui, bien sûr, ces événements peuvent être tout à fait indépendants les uns des autres et n'avoir aucune relation entre eux. Mais ces choses travaillent pour un même but. Elles agissent ensemble, elles concourent à une même chose. Et quel est ce but commun? Eh bien, c'est là que nous disons que c'est pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Alors là, peut-être qu'on est encore plus perplexe. OK, toutes choses, les choses bonnes, les choses ordinaires de la vie, puis les choses évidemment quand ça va pas bien, on a compris ça, ça fait longtemps. Hein? Mais toutes ces choses-là travaillent ensemble en plus pour produire un effet commun. C'est quoi alors toutes ces choses-là? Et puis, c'est quoi le bien que ces choses-là produisent dans les faits? Eh bien, avant d'examiner ces deux aspects, à répondre à ces deux questions, c'est quoi le but commun de ces choses-là et c'est quoi le bien que ces choses-là produisent, on va examiner un aspect important de notre vie chrétienne, et c'est celui de la piété, celui de l'exercice de la piété. On va lire le verset dans 1 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8. Je l'affiche à l'écran et je vais le lire dans la parole. 1 Timothée 4, versets 7 et 8, ça dit « Mais rejette les fables profanes et de vieilles femmes et exerce-toi toi-même à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais la piété est utile à toutes choses, ayant la promesse de la vie présente et de la vie qui est à venir. » Ici, Timothée est encouragé à s'exercer lui-même. Alors, tout comme l'exercice physique, quelqu'un ne peut pas s'exercer pour un autre. Et puis, nous, on ne peut pas s'exercer pour un autre. Moi, j'aimerais beaucoup ça, personnellement, si quelqu'un pouvait s'exercer à ma place, puis ça ferait le même résultat, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Heureusement, au ciel, il n'y aurait plus de problème avec ça. Mais bon, pour l'instant, l'exercice physique est peu utile, mais il n'est pas inutile. Il faut encore s'occuper de cette tente dans laquelle nous sommes, en attendant de revêtir notre demeure permanente et céleste dans les cieux. Mais voilà, tout comme l'exercice naturel ne peut pas être fait pour un autre, eh bien, c'est pour cela que Paul dit à Timothée aussi, « Exerce-toi toi-même. » Il ne demande pas à Timothée d'exercer les autres. Il ne demande pas à Timothée de demander à d'autres de s'exercer pour lui. Mais chacun doit s'exercer lui-même pour la piété. Et le mot « exerce-toi » veut dire, le mot qui est derrière, c'est « gymnastique ». Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la gymnastique, ça nous met immédiatement une image à l'esprit que cet exercice de la piété demande différents efforts et pour arriver à des résultats désirés. Alors, il lui dit « exerce-toi toi-même à la piété ». Mais c'est quoi au juste la piété? La piété, c'est avoir une relation vivante avec le Dieu vivant. Une relation réelle, une relation effective avec Dieu. Il y a un grand danger, c'est d'avoir une apparence de piété. On lit que dans les derniers temps, dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 5, que dans les derniers jours, il surviendra des temps fâcheux. Certes, on est rendu dans les temps fâcheux. Ça, c'est le verset 1. Et au verset 5, on dit que certains auront la forme de la piété, mais en ayant renié la puissance. Avoir une forme de piété, avoir de l'air extérieurement, peut-être religieux, faire des bons gestes, des bonnes actions, des choses que la parole de Dieu dit, c'est bien de faire, c'est excellent, il faut faire ces choses-là. Avoir même un caractère, un comportement qui est bon de façon générale. Mais ces personnes ont renié ce qui en fait véritablement la puissance. C'est quoi qui fait véritablement la puissance de la piété au juste? C'est tout ce qui concerne la personne du Seigneur Jésus. C'est ce qu'on trouve aussi hein, quand, dans 1 Timothée chapitre 3, lorsque l'apôtre dit que le mystère de la piété est grand. Sans contredit, le mystère de la piété est grand, au verset 16. Dieu a été manifesté en chair, c'est Jésus-Christ incarné, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde, a été élevé dans la gloire. Tout ce qui concerne la personne du Seigneur Jésus, c'est ce de quoi la piété se nourrit. C'est cela, le mystère de la piété. Oh, le Seigneur Jésus-Christ qui nous est maintenant révélé. Et notre foi se nourrit de lui. Notre piété se nourrit de lui. On marche devant la face de Dieu, devant la face du Seigneur, sachant que le Seigneur, il est avec nous. C'est cela, la piété. Mais malheureusement, ceux qui renient la puissance qui est derrière la piété, c'est ceux qui renient justement la personne de Christ et son œuvre et toute la vérité qu'il concerne. Ce sont des personnes qui ne sont pas sauvées. Ce sont des personnes qui ne sont pas lavées dans le précieux sang de Christ. Ce sont des personnes qui pensent que par leur religion, leurs bons actes, leurs bonnes œuvres, ils peuvent peut-être se gagner un accès au ciel. Ils l'espèrent du moins. Et si on leur demande s'ils sont assez bons pour aller au ciel, ils vont vous dire que oui, ils sont assez bons pour aller au ciel. Mais ça, c'est se comparer à des standards établis personnellement ou par les hommes plutôt que de se comparer aux standards de Dieu. Ces personnes sont sans vie. Elles n'ont pas une véritable vie, une relation avec Dieu. Elles sont hors Christ. Elles sont comme des branches qui ne sont pas en moi, dit le Seigneur dans Jean 15, et qui sont prises, ôtées, et on les laisse sécher. Elles sont jetées au feu par la suite. Ainsi, pour nous-mêmes qui avons vraiment la vie de Christ en nous, qui sommes sauvés parce que nous croyons à son œuvre à la croix et au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils Jésus-Christ, eh bien, on peut aussi, par les efforts de l'homme naturel, tenter de vouloir créer cette piété en nous. Mais c'est une erreur. C'est pas cela qu'il faut faire. C'est pas par un effort personnel, mais c'est vraiment par une relation vivante avec Dieu que la piété va se développer. Et c'est cela, s'exercer à la piété. C'est pas faire des efforts quant à la chair, c'est pas essayer de réformer des choses en nous, mais c'est véritablement de marcher humblement avec Dieu et de laisser ce travail que l'Esprit de Dieu désire produire en nous changer et transformer nos vies. Parce que ce qui paraît à l'extérieur, ça doit pas être quelque chose qui est fabriqué, mais ça doit être ce qui sort naturellement d'une transformation intérieur. Le Seigneur, il nous change à l'intérieur et il y a une piété visible autour de nous. C'est souvent lorsqu'il arrive des temps de crise ou d'épreuve que la véritable piété de quelqu'un est manifestée. On peut voir quelqu'un qui a l'air tout pieux, qui fait bien les choses, puis c'est un bon croyant, puis il arrive une épreuve, puis soudainement ce croyant-là agit, fait des choses qui sont contradictoires à pourtant ce qu'on croyait voir dans le passé. Ah! Ça, c'est un problème. C'est quand on a tenté de marcher en projetant une bonne image, mais qu'il n'y avait pas une véritable transformation intérieure. Que le Seigneur nous donne la grâce que ce qui est reflété à l'extérieur soit à l'égal de ce qui est à l'intérieur. Et ça ne veut pas dire que si ce qui est à l'intérieur est inférieur de ce que je projette à l'extérieur, que je dois baisser le niveau, mais ça veut dire que je dois véritablement, très rapidement, augmenter le niveau intérieur pour marcher selon la foi qui est véritablement en nous. Sinon, on s'attire toutes sortes de dangers. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Donc, vraiment, ce qui doit paraître à l'extérieur, ça doit être vraiment suite à une transformation intérieure. Et plus nous marchons avec Dieu, plus nous croissons aussi dans notre marche chrétienne. Et comment est-ce qu'on croit? Comment est-ce qu'on grandit? Comment est-ce qu'on s'exerce à cette piété? Eh bien, c'est justement en grandissant dans la connaissance et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si on a envie de maintenir notre tente, notre corps, dans un niveau correct pour bien fonctionner, on doit faire de l'exercice, on doit bouger. C'est un problème pour certaines personnes qui ont des métiers où on bouge malheureusement plus beaucoup. Puis pour d'autres, c'est un petit peu l'inverse. Leur travail les épuise déjà énormément. Mais bon, bref, il faut maintenir notre corps en bonne santé et ça nécessite de l'activité. Spirituellement, c'est la même chose. Il doit y avoir une gymnastique spirituelle, pour ainsi dire. Combien de fois par mois est-ce que je me suis exercé spirituellement dans la piété dans le mois passé? Combien de fois la semaine passée ou par semaine je devrais m'exercer dans la piété? Ou peut-être à tous les jours, combien de fois par jour est-ce que je devrais m'exercer à la piété? Toutes les questions que je viens de poser sont fausses. La piété, c'est quelque chose de continuel. Et puis, on en a une idée lorsqu'on regarde ce verset de 2 Pierre, au chapitre 3, verset 11, où Pierre nous dit « Toutes ces choses devant donc se dissoudre, quel genre devriez-vous être en sainte conduite et en piété? » Ah, frères et sœurs, on est vraiment à une époque où... comment le décrire? De tout temps, on attend la venue du Seigneur. Mais on est vraiment dans des temps où les choses vont très vite. Ou moralement, les choses dégringolent à une vitesse surprenante. Et on attend le Seigneur pour aujourd'hui. Mais s'il y avait encore une année qui devait passer, si ça devait arriver, malheur, eh bien, je ne suis pas un prophète en disant que ça va être encore plus rapide la chute de ce que nous voyons autour de nous. moralement parlant, dans la société d'une façon générale. Et si on doit être là encore, je veux pas, j'espère que ça va pas arriver, mais si on doit être encore là quelques années, ça va juste être pire. Les choses vont pas aller en s'améliorant. Alors, on est vraiment à une époque où on voit que les choses vont vers leur fin, vers le jugement de Dieu qui doit tomber sur la terre. Et on sait que juste avant cela, le Seigneur vient pour chercher les siens, son assemblée pour l'amener auprès de lui, parce que nous ne sommes pas appelés à la colère, mais à la vie. Eh bien, sachant que toutes choses doivent donc se dissoudre, parce qu'il y aura des nouveaux cieux et nouvelles terres qui vont être faits, quelle chance devriez-vous être en sainte conduite et en piété? Ce verset nous montre clairement que notre vie présente, spécialement nous qui vivons ces temps présentement, notre vie doit être continuellement caractérisée par cet exercice de la piété. Eh bien, on peut simplement conclure un peu comme Jacques à ce niveau-là, quand on prend le temps de réfléchir à ce qui vient d'être dit, c'est que nous faillissons tous. Jacques 3, verset 2. Mais le Seigneur, lui, ne nous laisse pas dans une telle place, dans une telle condition. Dieu nous a donné, sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété. Et nous avons toutes les ressources de la grâce et tout ce qu'il nous faut en Christ. Et, on l'a déjà dit, de quoi se nourrit la piété? De la personne même, du Seigneur Jésus. Alors c'est encore plus facile, on pourrait dire. Il est ce pain de vie dont nous avons besoin, tant à salut que pour notre marche de piété. Alors l'exercice de la piété tourne autour de cela. Vous voyez, la piété, ça nous est même dit dans 2 Pierre chapitre 1, versets 5 à 8, dans cette portion, que « y apportant tout empressement, on doit ajouter à notre foi quoi? » Mais la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, et à la patience, la piété. Elle doit être ajoutée activement, avec tout empressement, ça nous est dit. Et si on fait cela en ajoutant aussi l'affection fraternelle et l'amour, eh bien, ça nous est dit que si ces choses sont en vous, ils abondent. Ça veut dire que l'exercice, il doit être vraiment continuel pour produire un fruit continu, abondant. Eh bien, il fera en sorte que vous ne serez pas oisifs ni stériles pour ce qui regarde la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Grandir en piété, se nourrir de Christ fait effectivement en sorte que nous ne sommes pas oisifs quant à la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est véritablement en étant occupé de lui, une transformation qui va se produire en nous. Et ça nous amène justement à cette question, comment est-ce qu'on la développe, la piété? Comment sommes-nous transformés? On comprend très bien que l'exercice du corps produit une transformation. Pratique, transpiration, répétition, régime, repos, répéter encore. Tout ça, tous ces efforts vont produire une transformation ou, pour ceux qui ne sont pas trop dans la mouvance de la transformation, maintenir cette tente dans un état fonctionnel au moins. Mais spirituellement, comment est-ce que ça se produit, cette croissance dans la piété? Comment est-ce qu'elle se fait? Eh bien, elle se fait aussi par des efforts. Et le point de départ pour cela, c'est le point fondamental, le point essentiel, nécessaire, est bien sûr d'être renouvelé dans notre entendement. Soyez transformés par le renouvellement de votre entendement. Et cette transformation se fait par la lecture de la parole de Dieu et par la connaissance des Écritures et par le travail de l'Esprit-Saint en nous. Donc, on lit la parole, on comprend la parole, on met en pratique la parole de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas seulement cela. Grandir et s'exercer dans la piété. C'est plus que cela. C'est aussi ce qui nous est dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18. « Or nous tous, en contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. » Oh, ici on voit quelque chose de beau. Nous sommes transformés, une transformation, en la même image, de celui que nous contemplons, à celui que nous regardons à face découverte. Dans l'Ancien Testament, il y avait un voile. Et c'était impossible pour ceux de l'Ancien Testament de voir toutes ces gloires magnifiques concernant le Seigneur Jésus et d'entrer dans cette pleine connaissance de la personne de Dieu. C'est seulement depuis que le Seigneur Jésus est venu, celui qui m'a vu a vu le Père, a-t-il dit, et depuis qu'il est exalté dans les cieux et que nous avons maintenant l'Esprit Saint et toutes les Écritures entre nos mains, que nous pouvons vraiment contempler à visage découvert la gloire du Seigneur Jésus. Nous avons ce privilège d'avoir ce libre accès dans la présence même de Dieu, dans le sanctuaire, le lieu très saint, parce que Christ nous en a ouvert le chemin, parce que nos péchés sont lavés entièrement en lui, parce que nous sommes revêtus de sa justice, parce que nous avons revêtu Christ et que nous sommes maintenant parfaitement aimés du Père et acceptés dans sa présence. Quelle liberté nous avons pour nous approcher dans la présence de Dieu. Et maintenant, nous pouvons contempler Christ, découvrir sa personne magnifique et merveilleuse et par le fait même, découvrir véritablement qui est Dieu. Et son cœur plein d'amour et de tendresse envers non seulement ses enfants, mais envers toutes ses créatures. Et c'est pour cela qu'il ordonne à tous de se repentir et d'être sauvés. Alors, il y avait ce voile dans l'Ancien Testament, mais maintenant nous avons une pleine liberté, un accès complet. Et non seulement cela, l'Esprit Saint qui habite en nous, le Seigneur Jésus nous dit dans Jean 16 qu'il prend des choses qui sont de lui, du Seigneur Jésus, et il nous les communique. Et c'est ce que l'Esprit Saint fait pour que nous puissions grandir dans la connaissance et la grâce de notre Seigneur Jésus. Alors vraiment, c'est contempler le Seigneur qui nous fait grandir en lui. J'aimerais partager ces deux beaux versets dans Luc 24, verset 29 et le verset 32. On lit ceci, c'est une belle image. C'est après la résurrection, lorsque le Seigneur marche avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. On voit que les disciples, ils le forcèrent, disant, « Demeure avec nous, car le soir approche et le jour a baissé. » Et qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur Jésus? Il a dit, « Ah non, j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire. » Ah, il est resté, il entra pour rester avec eux. Et on sait qu'ils préparaient le souper, et quand le Seigneur Jésus a rompu le pain, leurs yeux se sont ouverts, ils l'ont reconnu, et ensuite ils disent ceci entre eux, ils dirent entre eux, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait par le chemin et lorsqu'il nous ouvrait les Écritures? » Oui, frères et sœurs, lorsqu'on s'approche du Seigneur Jésus, qu'on est occupé de lui, notre cœur brûle. Lorsqu'on ouvre les Écritures pour chercher toutes les choses qui concernent le Seigneur Jésus, ça touche nos âmes et nos cœurs et on apprend à le connaître et le découvrir, lui. Est-ce que nous avons ce même désir que les disciples? Ils le forcèrent. Ils n'ont pas dit, « Ah, Seigneur, si ça te tente, tu sais, viens, puis reste un petit peu plus, puis tu, si tu veux, on ne va pas te déranger. » Ils le forcèrent. « Demeure avec nous. Reste. » Le Seigneur est resté. Oh, que le désir de nos cœurs, frères et sœurs, prions pour cela. Que le désir de nos cœurs aussi soit de vouloir ainsi le Seigneur Jésus, de lui dire, « Reste, Seigneur, parle-moi de toi. Je veux grandir dans ta connaissance. » Je veux avoir un temps béni avec toi. C'est cela, s'exercer à la piété. Désirer la présence du Seigneur, marcher comme devant sa face continuellement, apprendre à le connaître, lui, toujours plus, le contempler. Et c'est cela, cette contemplation, par la parole de Dieu, par le travail de l'Esprit, par cette occupation de la personne du Seigneur Jésus qui nous transforme de gloire en gloire à son image. Et bientôt, cette transformation-là va être accomplie définitivement. C'est ce qu'on trouve dans 1 Jean, chapitre 3. On a ce beau verset qui nous dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. » Oui, très bientôt, nous le verrons comme il est, et à cause de cela, nous lui serons parfaitement, définitivement, totalement semblable. Amen et gloire à Dieu. Mais Dieu, lui, attend pas ce moment-là. Dieu travaille présentement et c'est justement ce travail-là qu'il produit dans nos vies. C'est le propos de Dieu. C'est ce que Dieu fait. On lit dans notre verset de Romains 8, 28, que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. Oh, Dieu, il y avait un propos, une idée derrière la tête. Mais c'est quoi ce propos-là de Dieu? C'est quoi son idée? Verset 29. Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés. Dieu avait un plan à l'avance. Il savait qu'est-ce qu'il allait faire. Et ce qu'il a déterminé pour vous et moi, qui sommes en Christ, qui avons une vie véritable, une relation véritable avec lui, avec Dieu, ce qu'il avait prédéterminé pour nous, c'est que nous soyons rendus conformes à l'image de son Fils. Pour qu'il soit, lui, Christ, premier-né entre plusieurs frères. C'est extraordinaire, cette pensée, premier-né entre plusieurs frères. Être conforme à l'image de son Fils, c'est ce que Dieu fait maintenant. Quelle grâce extraordinaire que Dieu nous fait. Le propos de Dieu est extraordinaire. Vraiment, Dieu, il est bon, magnifique, merveilleux, grand, extraordinaire. On a hâte de plus avoir nos limitations actuelles pour pouvoir jouir davantage de toutes ces choses. Bientôt, à la présence du Seigneur. Être conforme à l'image de son Fils, c'est le propos de Dieu et c'est ce qu'il fait présentement. C'est le but final de Dieu. Dieu nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils bien-aimé. Lorsqu'on regarde au Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'on voit sinon une dépendance parfaite, sinon la reconnaissance et la louange qui montaient devant Dieu continuellement aussi, sinon cette confiance inébranlable, même dans les moments les plus sombres par lesquels il a dû passer pour nous racheter et nous sauver. Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde au Seigneur Jésus? Zèle, vie de prière, grâce, miséricorde, sagesse, tout est excellent. Oui, véritablement, à trois reprises, les cieux se sont ouverts pour dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Point. Quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, Dieu travaille présentement à cette transformation de nos vies pour qu'elles soient à l'image de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. C'est ce que Dieu fait présentement. C'est le but final et c'est ce qu'il fait maintenant. Dieu utilise donc toutes choses pour les faire travailler ensemble dans ce but de cette transformation à l'image de son Fils. Il nous a prédestinés à être conformes à son image et c'est cela qu'il fait maintenant. Et c'est cela aussi qu'est notre bien. Le bien de ceux qui aiment Dieu, c'est d'être conformes à l'image de Christ. C'est cela que Dieu fait. C'est cela le bien. Et c'est pour cela que toutes choses travaillent ensemble, pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Remarquez que ce n'est pas écrit dans le verset que toutes choses travailleront ensemble, dans le sens que ce sera quelque chose de futur. Hein? Ce n'est pas « travaillera pour le bien ». Et ce n'est pas non plus « travaille pour le bien à venir, mais c'est travail pour le bien, quelque chose d'actuel. C'est quelque chose qui est actuel et présent. C'est quelque chose que Dieu fait maintenant. Ce verset de Romains 8, 28 n'est pas un verset de type « Fais-toi-en pas, ça va mal aujourd'hui, mais demain ça va aller mieux, ça va passer. » Ou de type « Fais-toi-en pas, ça va mal aujourd'hui, mais le temps va passer, puis ça va passer, tu vas voir. » C'est pas un verset de type non plus « Ouais, ben si ça va mal aujourd'hui, ah, j'ai assez hâte que ça aille 10 fois mieux dans pas longtemps. » Le verset a rien à voir avec les choses de la terre. Et souvent, malheureusement, on a tendance dans nos esprits humains, naturels, d'aborder ce verset-là comme si c'était une promesse de bénédiction terrestre. Ah, ça va mal présentement, il y a des circonstances négatives, encore une fois, parce qu'on pense aux circonstances négatives, au lieu de penser que c'est toute chose, véritablement, puis on se dit, ben, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Évidemment, quand les choses vont mal, on s'en remet à Dieu. Et ce verset est une véritable consolation pour ceux qui passent des moments difficiles et qui comprennent que Dieu fait un travail présentement. Pas parce que, tu sais, des fois on a l'impression que tout ce qui arrive de négatif, c'est parce que c'est le vigneron qui est obligé d'émonder la vigne, puis clac, 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 on coupe, coupe. pas toujours. Des fois, il arrive des choses difficiles, puis à travers ces choses-là, Dieu, il veut produire en nous, voir en nous, cette image de son Fils Jésus. C'est ça le travail que Dieu fait. Alors, le verset 28, c'est pas un verset qui est en rapport avec les choses de cette terre. C'est en relation avec une transformation intérieure qu'il fait dans nos cœurs. C'est cela le travail que Dieu fait. Et comment est-ce qu'il le produit? Eh bien, regardons, nous, à la personne du Seigneur Jésus, à travers toutes les Écritures. Regardons à lui, et puis à sa marche parfaite, et puis à comment il agit dans toutes ces circonstances, et puis à toutes les prophéties qui nous parlent de lui. Plus on est occupé de lui, plus ça produit cette transformation. Et plus, à travers les différentes circonstances de la vie qui sont nôtres, jour après jour, plus il y aura cette expression en nous du caractère du Seigneur Jésus que Dieu désire produire maintenant en nous. Alors, c'est quelque chose qui est très beau et très positif, et qui est très consolant et qui est très encourageant, qui nous motive même. Soyons pratiques un instant et examinons différentes choses qui peuvent nous arriver et à travers lesquelles Dieu désire que ce changement, cette transformation se produise dans nos vies. Donc, premièrement, les choses positives et joyeuses. Oui, en effet, ce que Dieu nous donne, tous ses soins, ses bénédictions, les merveilles de sa création qu'on peut même jouir, une bonne marche, un beau lever de soleil, un coucher de soleil, des choses ordinaires de la vie, toutes ces choses qui nous donnent de la joie. Qu'est-ce qu'on fait à travers ces choses-là? Est-ce qu'on loue et qu'on bénit Dieu? Est-ce qu'on rend grâce? Est-ce qu'on en profite pour faire monter la louange dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on reconnaît Dieu dans toutes ses œuvres merveilleuses? Est-ce qu'on l'adore, pas juste le dimanche matin, mais à tous les moments de notre vie, à toutes ces occasions multiples qui nous sont présentées? Je suis certain que le Seigneur Jésus faisait exactement cela. À tout moment, toutes ses pensées, tout son cœur, tous ses gestes étaient à la gloire de Dieu, dans la louange avec Dieu, dans la communion avec Dieu. Ça devait être extraordinaire d'être avec lui, même pour cet aspect-là. Et Dieu désire, à travers ces circonstances, toutes ces choses qui sont positivement positives, produire cela en nous aussi. Qu'il y ait cela en nous aussi. Ça nous change tranquillement à l'image de son Fils bien-aimé. Il y a ensuite les choses qu'on pourrait appeler les choses ordinaires de la vie. Hein? Travail, maison, routine. Des fois, la routine peut être lourde aussi. On a l'impression qu'il ne se passe rien d'intéressant dans notre vie, puis c'est tout le temps la même chose, puis je ne vois personne, puis... Ça peut être lourd, mais même à travers ces choses-là, est-ce qu'on est fidèle? Est-ce qu'on persévère? Est-ce qu'on prie sans cesse? Est-ce qu'on s'exerce à la piété à travers ces choses-là? Ces circonstances tout à fait banales que souvent on ne s'en rend même pas compte, on n'en prend pas note, ces choses-là aussi travaillent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Elles travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Alors qu'à travers ces choses-là, nous puissions continuer fidèlement avec le Seigneur. Et puis encore une fois, notre Seigneur Jésus est l'exemple à tous égards dans cela. Bon, je ne dis pas ici qu'il y avait des moments ordinaires dans le temps de ministère du Seigneur, mais vous comprenez ce que je veux dire. En tous égards, tout moment, continuer fidèlement. Et c'est encore refléter, manifester, être transformé tranquillement, encore à l'image de son Fils bien-aimé, à notre Dieu et Père, au Seigneur Jésus-Christ. Et puis, évidemment, il faut le mentionner, mais les choses négatives qui nous arrivent, épreuves, peines, déceptions, etc. Est-ce qu'on fait comme le Seigneur dans ces situations-là? Ou est-ce qu'on se débat nous-mêmes, ou on s'apitoie? Il y a toutes sortes de manières qu'on peut réagir qui ne sont pas bonnes ni pour nous, ni non plus belles pour... Et agréable devant le Seigneur. Hein? Ça ne va rien nous donner au bout du compte. Mais est-ce que lorsque ces choses-là arrivent, on va dans les mains du Père, dans ses bras, se remettant entièrement à lui, lui remettant notre cœur, nos pensées, et s'en remettre à ses tendres soins, sachant qu'il a compassion de nous et qu'il sait qu'est-ce qui arrive. Il n'est pas indifférent qu'est-ce qui se passe. Le Seigneur est l'exemple ultime à ce niveau-là. Dans combien de souffrances il est entré? On le voit au jardin de Gethsémané, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais pas ma volonté, ta volonté. Et à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais aussi, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Les psaumes nous parlent de ces choses-là aussi, mais aussi de sa grande joie. lorsqu'il est ressuscité le troisième jour. Donc, le Seigneur, même dans Hébreux, on voit comment il a enduré toute chose en vue de la joie qui était devant lui. Quel exemple et quel modèle? Est-ce que aussi on fait cela dans ces circonstances-là? Oh, Dieu désire voir en nous cette image du Seigneur Jésus, produire cette transformation. Pour ainsi dire, toutes ces choses qui travaillent ensemble, c'est un peu, pour reprendre l'image de l'exercice physique tantôt, c'est un peu le grand gymnase ou cette gymnastique de la piété, de cette transformation à l'image de son Fils bien-aimé se produit. Parfois, il y a des exercices qui sont plus déplaisants, parfois il y en a d'autres qui sont agréables. Bon, en tout cas, on pourra en discuter, parce que des exercices agréables, moi, j'en ai jamais connu. Si jamais vous en connaissez, vous me le direz, bon, c'est tout le temps dur, hein, les exercices. Mais bon, on va s'en tenir aux exemples positifs. Il y a des choses agréables qui arrivent, mais ces choses agréables, c'est aussi ce travail pour être toujours à l'image du Seigneur Jésus. Des choses ordinaires, comme on vient de le dire, et des choses négatives. Tout cela, toutes ces choses travaillent ensemble. Elles n'ont peut-être aucune relation les unes entre les autres. Peut-être que dans une journée, on peut avoir une diversité de toutes ces choses aussi. Mais le but commun qu'elles ont, c'est ce que Dieu fait. C'est notre bien, le pour le bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son propos, c'est d'être conforme à l'image de son Fils. À tous égards, le Seigneur Jésus a vraiment glorifié le Père. Le Père désire maintenant produire ce caractère en nous aussi. Et c'est pourquoi toutes les choses travaillent ensemble pour notre bien, c'est-à-dire en relation avec notre conformité à l'image du Seigneur Jésus. En attendant le jour où nous serons nous-mêmes à tout jamais rendu parfaitement conforme à l'image du Seigneur, parce que nous le verrons tel qu'il est, nous serons semblables à lui. Amen. Le propos de Dieu. Amen. Gloire à Dieu pour cela, frères et sœurs. En attendant ce moment magnifique et bienheureux, eh bien, nous croissons jour après jour dans différentes circonstances où Dieu nous fait grandir et il produit ce travail béni déjà en nous. Donc, en lisant ce verset, rappelons-nous cela. Ce n'est pas seulement les choses qui sont négatives, notre réflexe naturel. Et le verset n'a pas rapport avec les choses de la terre en tant que telles. Ce n'est pas les choses de la terre. Ce sont les choses qui sont produites en nous. C'est un travail spirituel. Nous sommes un peuple spirituel. Nous avons une espérance céleste. Notre bourgeoisie est dans les cieux. Nous serons semblables au Seigneur Jésus. Nous allons régner avec lui. On pourrait nommer beaucoup de belles promesses pour nous encourager. Mais Dieu travaille déjà à nous rendre conformes à l'image de son Fils. Bon, ça ne sera jamais le cas à 100%, même pas à... Bon, en tout cas, on ne fera pas de proportion, là, mais ça ne sera jamais parfaitement le cas ici-bas sur Terre. Mais jour par jour, dans cette marche, dans les différentes circonstances, ordinaires, très heureuses, plus lourdes de la vie, ces choses travaillent à cet égard, cette transformation que Dieu fait dans nos vies. Alors, soyons vraiment encouragés, frères et sœurs. C'est ce que Dieu fait. Et c'est pour notre bien présent. Parce que la piété est la promesse des choses présentes et des choses à venir. Mais malheureusement, pour celui qui n'a pas la vie de Dieu, qui n'a pas le salut de Dieu, eh bien, la seule promesse qu'il a, c'est le jugement qui vient très bientôt sur ce monde. Mais pour nous, quelle chose? Déjà, oui, véritablement, nous sommes participants de la nature divine, comme on lit dans 2 Pierre, au chapitre 1. Nous sommes participants, je vais juste chercher précieuse promesse, afin que vous participiez de la nature divine. Véritablement, dès à présent, nous participons de la nature divine et Dieu fait ce travail en nous. C'est pour cela que toutes choses, à tous égards, travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. Alors, bientôt, ce travail sera achevé en perfection. Nous verrons le Seigneur Jésus tel qu'il est. Mais dans l'attente, regardons à lui, au Seigneur Jésus. Parce que non seulement c'est par ce moyen, par cette contemplation, que nous sommes transformés de gloire en gloire à son image, que cela réchauffe nos cœurs, mais aussi parce qu'il vient bientôt.